Et quelle est la chose que vous aimeriez qu'on retienne de vous?
Écoutez, moi, je veux pas qu'on retienne quelque chose de moi. Je suis quelqu'un qui a 30 ans maintenant, qui fait un métier depuis 12 ans, chose que peu de gens savent aussi. Bon, et puis, je suis pas là pour la postérité. Je fais un métier, et il se trouve que ce métier entraîne que si on y a de la réussite, on est connu.
Sans doute aurez-vous reconnu cette voix qui nous manque encore. Daniel Balavoine a donc semé ses rêves quelque part entre Mauritanie et Mali, il y a pile 40 ans. Bonjour et bienvenue dans cette 9e visite de la saison 9 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs, y compris en DAB+ et podcast. Cette semaine, pour ce second volet Balavoine, c'est à l'artisan chanteur, compositeur et auteur que l'on rend visite au piano et dans son home studio, c'est-à-dire une pièce, chez lui avec plein d'ordi, de claviers, d'ampli. Pour l'instant, retour à la télé en 82, source non identifiée.
Alors j'y peux rien, j'ai choisi un métier, non pas pour être connu, j'ai d'abord choisi un métier, mais j'accepte tout ce que ça entraîne ensuite, c'est-à-dire les autographes dans la rue, sauf pour les gens qui ne me connaissent pas, mais les autographes dans la rue, la contrainte de faire de la promotion, toutes ces contraintes-là qui n'en sont pas des vraies à partir du moment où elles ne sont pas faites de concessions, c'est tout. Mais je ne veux rien laisser, je ne veux pas laisser de traces dans la littérature française, tout ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'heure. L'heure, le moment. Je veux dire que le passé, moi, je ne vis pas de ça, ça ne me nourrit pas. Et l'avenir, je ne sais pas de quoi il est fait, puisque je ne sais pas combien j'en ai devant moi d'avenir. Donc ce qui m'intéresse, c'est par exemple de faire l'émission qu'on est en train de faire. Ça m'intéresse beaucoup plus que toute autre chose.
Allez, petit cours de composition de chansons, s'il vous plaît, avec un très grand nom du genre. Nous sommes en novembre 81, Mitterrand est président et Balavoine est dans l'émission Une journée avec. Après une séquence à moto, le voilà derrière son piano à queue.
C'est là.
Si bémol 9e.
C'est si bémol 9e. Ça, c'est un truc que je sais même pas que ça existe. Que je joue sans même savoir que ça existe. C'est-à-dire que le début, ça va. Ça, c'est un do mineur. Après, donc, c'est fa mineur. Ré bémol, ça. Ça c'est quoi? La bémol.
Mi
bémol. Fa mineur. Et après, da, 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 da. Ça c'est un quoi alors, tu dis?
Alors c'est ça c'est ré bémol septième majeur.
Et le suivant. Et
alors, fa mineur sur ré bémol. Et le suivant c'est si bémol neuvième.
Voilà l'exemple type d'accord que je sais.
Il y a que la basse qui change.
Bon, et c'est suffisant pour changer le nom de tout.
Voilà.
Bon. Et c'est l'exemple type des choses que je sais pas ça. Alors je suis pas en train de prendre une leçon de piano. Je suis en train en fait de travailler. J'allais dire à ma façon, j'allais plutôt à une autre façon. Et je vous explique pourquoi. Parce que je n'écris pas la musique. C'est pas fondamental pour moi, pour faire ce que je fais. Je ne suis pas Beethoven, donc c'est pas compliqué à ce point-là. Puis en plus, c'est pas une façon de travailler qui me conviendrait. J'ai trois éléments pour travailler. D'abord, moi, je me mets en un, puisque c'est de moi que ça sort. Même si ça sort aussi de ce que j'entends à côté, des fois. Et puis il y a en deux, le magnétophone, qui est un peu ma feuille de papier, mais c'est pas dans le sens de l'écriture, c'est dans le sens de la mémoire, ouais, c'est ça. Et puis, alors après, il y a, en l'occurrence, Hervé, qui est musicien, qui joue avec moi depuis, dit bonjour au public. Voilà, bonjour, gentil public, on dit. Hervé, qui joue avec moi depuis maintenant 6-7 ans, et que je rencontre chaque fois que je prépare un disque, pour faire ce qu'on appelle des grilles, vous voyez, c'est ça, des grilles, je sais pas si vous le voyez. Des grilles, c'est ça, c'est les harmonies de mes chansons.
C'est un brouillon. Hein,
c'est un brouillon. Alors on fait ça simple parce que je ne connais pas le nom des harmonies que je fais. Enfin si, j'en connais quelques-unes, vous m'avez entendu dire tout à l'heure de nom de certains accords, c'est pas pour frimer, c'est vraiment vrai que je sais. Je sais que ça c'est un fa mineur, que ça c'est un ré bémol, etc. Mais il y a des accords qui se compliquent, comme celui qu'on a fait après, qui est un bémol majeur. Bon. À vrai dire, pour moi, c'est pas important que ça s'appelle comme ça. Ce qui est important, c'est le son que ça a. Mais par contre, c'est important pour les musiciens qui vont jouer avec moi. Alors, Hervé retranscrit tout ça clairement. Et lorsqu'on répète, qu'on est en studio, qu'on enregistre, voilà, alors, il donne ça aux musiciens. Et à partir de ça, on cherche les arrangements. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'arrangeur. On fait un travail de groupe. Voilà. Et Hervé, lui, emmène les cassettes chez lui, les cassettes que je fais, et puis il travaille dessus. C'est un peu pour expliquer tout ça et pour dire simplement que c'est un état d'esprit de ne pas vouloir prendre d'arrangeurs qui font d'une mélodie bonne ou mauvaise quelque chose soit de trop grandiloquent, soit de trop simple, des choses comme ça. Alors on fait un travail d'équipe avec des musiciens qui sont chacun à leur instrument, ce qui n'est pas le cas des arrangeurs. Un arrangeur joue du piano et arrange la batterie, arrange la basse, hein, il arrange la guitare, tout. Enfin, des fois il arrange, enfin, c'est vraiment le cas de le dire, on se fait bien arranger.
Et donc il transcrit ce que le musicien va jouer.
Oui, en principe, et ce que, c'est pas obligatoirement que ça convient à la chanson, que ça convient au goût qu'on a. Alors au moins on sait que chaque musicien a son instrument, et en principe censé pouvoir donner le meilleur de cet instrument. Et c'est pour ça que je fais confiance aux gens qui m'entourent. Et puis ça donne, ça me rappelle ma jeunesse en plus. Je suis pas vieux, mais enfin je suis plus jeune non plus. Et j'ai commencé par faire des groupes de rock. Et j'ai la sensation toujours de faire de la rock musique maintenant. Pas du rock and roll, c'est sûr. Je fais pas du Bill Haley ou des choses comme ça ou d'Eddie Cochrane. J'ai la sensation de faire de la rock musique et française en plus parce que je crois que ça existe aussi. Et alors en travaillant comme on fait là avec Hervé, c'est du travail de musicien, je trouve, de musicien un peu profane dans ce qui me concerne, mais c'est bien parce que je crois que si je connaissais tout seul, je m'ennuierais et ça m'empêcherait d'avoir des liens d'amitié avec des gens comme Hervé, avec des gens qui travaillent avec moi, et ça me gâcherait toute ma vie, ça m'intéresserait plus du tout, quoi. Voilà.
En 84, dans le documentaire Balavoine, le chanteur en état de marche.
Ça, c'est un truc qui est très rigolo, et notamment dans le milieu de la musique rock en France. C'est-à-dire que tant que les artistes sont anglo-saxons, s'ils ont des voix aiguës, c'est pas grave. Genre Bowie a chanté bien avant moi. Les Beatles avaient souvent des voix un peu particulières, sans trafic d'ailleurs. Il suffit de vouloir les citer pour plus les trouver, mais il y a beaucoup de gens, le chanteur de Queen, le chanteur de Supertramp, le chanteur de Police, Sting, chante très très haut. Et alors quand c'est les Anglais ou les Américains, ça va, ça n'atteint pas à la virilité française. Mais il faut arrêter tous ces trucs-là. Je veux dire que je suis ce que je suis, j'ai la voix que j'ai. Je veux dire que la musique rock ou le rock'n'roll, c'est pas là-dessus que ça se juge. Le rock, c'est la sueur. C'est rien d'autre que ça, et peu importe la manière dont on transpire, ce qui compte, c'est de transpirer.
Sa vision du rock, c'est avant tout le rythme et la mélodie. Les paroles, pour Balavoine, ça vient ensuite et même au second plan. Et pourtant, on sera tous d'accord sur un point. Question parole, il y a bien pire que Balavoine, avant, pendant et après.
Ça, c'est bon pour la mer.
C'est ça que je dis. C'est que les paroles seules n'ont pas d'importance. Sinon, on ne mettrait pas de la musique avec. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand je dis ça, je pense notamment aux anglo-saxons, c'est-à-dire les disques qui sortent ici, auxquels personne n'entrave que dalle, finalement. C'est pour ça que ça me fait rigoler, parce que les gens, une fois de plus, de la presse spécialisée, ont une exigence vis-à-vis des textes français qui me paraît complètement délirante.
Une journée avec se termine par une séquence de balance. Vous savez, le moment où le groupe répète in situ dans la salle le jour du concert, et souvent pour les gros spectacles, déjà quelques jours avant.
Et puis là donc on va attaquer la répétition d'un nouveau morceau, qui est en fait un ancien morceau mais qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et puis on va régler tous les sons des instruments. Bon, cela dit, on peut le faire pas fort, Colin. Hervé, est-ce que tu peux faire une grille du morceau pour Philippe?
Je suis bien, je suis bien, je suis bien lavé de pied dans le même savon. Je suis bien,
ça va voir.
Je suis bien, je suis bien lavé de pied dans le même savon. Je suis bien, je suis bien.
Ah oui, l'argent. Même si la même année que leur portage en état de marche, c'est-à-dire 84, est sorti le titre « La vie ne m'apprend rien ». Wow. Tout d'une question financière et carrière, si un petit peu quand même. Lui qui, face caméra, a longuement décomposé dans le même documentaire ce que coûte un titre à produire en égrenant les billets de Monopoly, ce qui résume fort bien la situation d'un. Il faut bosser de deux.
Je veux dire, ça n'arrête plus. Je suis pas en train de faire. C'est un raisonnement capitaliste que je pousse là. C'est-à-dire que c'est les riches qui font vivre les autres, soi-disant. C'est pas un raisonnement qui me tient à cœur, mais il y a des vérités qui sont incontestables, c'est tout. Mais il faut en rigoler. Il faut en rigoler, c'est tout. Et puis, comme je dis toujours, il y a 5 ans, ça marchait pas et personne ne me demandait comment j'allais. Et si dans 5 ans, ça marche plus, je prendrai le dernier billet et chaque jour, j'en déchirerai un petit bout pour le yaourt. un goût pour le machin, et à ce moment-là, personne viendra taper à ma porte pour me demander ce qui se passe. Faire un petit rectificatif, les chanteurs gagnent beaucoup d'argent, les chanteurs qui marchent. Ceux qui ne marchent pas n'en gagnent pas. Bon. J'ai passé de longues périodes de ma vie sans en avoir, sans être pauvre, mais enfin, sans être riche non plus, dans une famille normale, je dirais, bon. Et puis, depuis quelques années, j'en ai un peu, même plutôt beaucoup, mais pas milliardaire, mais bien. Disons que je suis pas mal placé pour faire la différence entre les deux. Il y a un adage qu'on trouve ridicule qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais moi, je crois que c'est vrai. Par contre, ce qu'il ne faut pas nier, c'est que je crois que l'argent est le plus bel anesthésique qui est pour le malheur. Mais ça reste un anesthésique et c'est aléatoire. C'est tout ce que j'en pense. C'est chanter qui m'a fait gagner de l'argent. C'est mon talent con.
Eh oui, le talent con. Elle a bien vécu dans le sud-ouest, non, hein? Bon. Et avec beaucoup d'argent, voire même une somme astronomique, Balavoine a investi dans un home studio comme seuls quelques anglo-saxons pouvaient le faire à l'époque, avec au centre l'échantillonneur Fairlight CM1. Ce qui, pour résumer, est le proto-matériel à l'origine de nos home studios actuels, avec enregistrement et modelage de son pris dans l'environnement naturel ou si talent, donnant des couleurs et des timbres uniques ou singuliers à des univers sonores, des textures, voire une signature, ou tout juste un truc comme tous les autres aujourd'hui. Mais à l'époque, rares sont ceux qui ont su maîtriser un tel engin.
Vous pouvez nous expliquer ce qu'on est en train de faire, là, Daniel Balavoine?
Oui.
C'est bizarre.
Non, c'est pas bizarre. C'est un train. J'écoute des sons, en fait. Je suis en train de chercher des sons pour environner une chanson. J'ai fait une chanson qu'on va écouter tout à l'heure, je crois, qui s'appelle « Tous les cris des SOS ». Bon, la chanson, quand je la fais, elle est toute bête. Elle est au départ, elle est ce qu'elle est. Elle est
comme un fou, moi, je t'ai à la mer. Des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air.
Terra. Bon. D'ailleurs, j'ai fait le texte souvent après avoir sélectionné les sons. Bon, enfin, en tout cas, il y a un climat là-dedans que je veux faire ressortir. Il y a pas un message, mais des mots, des choses que j'ai envie de donner. Et je crois que la musique sert aussi à ça. Alors, je cherche des sons bizarres comme ça. Je passe à travers mon ordinateur avec lequel j'ai une collection de disquettes fantastiques. Et puis, donc, avec ce Fairlight, puisque ça s'appelle comme ça, eh bien, je cherche d'avoir les sons qui me viennent à l'idée. Et puis, en cherchant tous ces sons, bah souvent, je tombe sur des sons auxquels je n'avais pas pensé, mais qui me servent. L'exemple est là, par exemple, type, c'est ça, c'est un sifflement de train. À l'origine, c'est un vrai sifflement de train que j'ai modifié, sur lequel j'ai mis un vibrato. Voilà, qu'on entend là. Et ça devient un instrument bizarre qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
Ça veut dire que vous pouvez vous servir de tous les bruits, de vous servir de tous les bruits qui existent partout.
De tout.
Un serpent, machin, pour en faire de la musique.
Un serpent, machin et tout. je peux tout faire, je sais pas, mais ça, en tout cas, ça ouvre un champ qui me paraît, en tout cas, a priori, effectivement, illimité. C'est-à-dire, je peux, dans cette chanson-là, je sais que je vais utiliser des coups de frein qu'on peut écouter après, si vous voulez, des sons très bizarres. Bon, le fait d'utiliser un train, c'est pas évident. Il y a un autre truc que je peux vous faire écouter, qui est en fait un ensemble de percussions africaines qui a été enregistré comme ça. Voilà, et ça joue. Bon, et après, quand on va écouter la chanson programmée dans l'ordinateur, on n'entendra que ça. Ou juste un coup.
Quand vous utilisez comme ça des percussions, etc., vous ne remplacez pas un peu le travail des musiciens par la machine quand même?
Bah écoutez, si à chaque fois, par exemple, pour cet exemple-là, si je voulais à chaque fois utiliser ce genre de choses, il fallait que j'aille dans la jungle pour enregistrer ça, ça serait horrible. Et puis, de toute façon, ce n'est pas le propos, ce n'est pas le principe de cet appareil. Je sais qu'il y a des gens qui se servent de ce genre d'appareil pour remplacer les musiciens, et je crois que c'est vraiment une erreur. D'abord, je trouve que c'est malsain, parce que les musiciens ne sont pas faits pour être remplacés par des machines. Moi, je ne m'en sers pas pour ça. Il est vrai que des fois, je pars de sons existants, comme des sons de violon, qu'il peut y avoir là-dedans, des choses comme ça, qui sont de vrais sons de violon. Mais si c'est pour faire jouer du violon, ce n'est pas la peine. Je préfère appeler un violoniste. Moi, je déforme les sons, je les cerne, et puis je les modifie. À la fin, vous ne pouvez pas être capable même de me dire d'où ça vient, en fait. Donc moi, je me sers de ça pour vraiment trouver des sons originaux, pour que la musique se différencie des autres musiques. Je dis pas pour taper dans le génie, mais c'est bien et c'est confortable de savoir qu'on va environner une chanson avec des sons vraiment bizarres et particuliers.
Mais vous disiez tout à l'heure que c'était presque faire une musique de façon plus naturelle malgré la machine.
Ben oui, parce qu'à partir du moment où je vous dis que je peux faire de la musique avec un sifflement de train ou le bruit du vent ou des portes, il y a une chanson qui s'appelle L'enfant assis attend la pluie dans mon album, où tout le début de la rythmique, c'est-à-dire de la base rythmique de la chanson, est faite d'un élément de chargeur de fusil. Mais c'est un petit peu modifié. Et puis il y a une autre ponctuation rythmique qui est faite par exemple avec le son d'un sonar de sous-marin. Vous avez entendu mille fois des sonars de sous-marin dans les films de guerre, et il n'y a pas de gens qui font de la musique avec ça. Donc c'est juste pour donner un aspect plus bizarre, de faire des climats plus chauds, plus étranges, enfin plus attirants. Je sais pas si j'ai raison. Moi je sais que j'aime faire ça parce que c'est moins traditionnaliste et puis c'est plus passionnant.
Ce qui est fort intéressant au demeurant dans ces propos, c'est le fait de laisser la machine à sa place. C'est un outil, un instrument conçu par l'homme, pour l'homme et la création. Mais l'homme a toujours besoin d'autres hommes, des musiciens, pour la même création, pour cette création. Et là, on touche à un sujet ô combien contemporain qui s'inscrit dans la question « La création existe-t-elle encore hors du numérique et de l'électrique au sens large ? Ou n'est-ce là qu'une fraction de la modernité en musique ?» Car il ne s'agirait pas de mettre à la corbeille des siècles de modernité. Bon, perso, j'ai ma réponse, mais on n'a pas le temps.
Bon, alors là vous avez donc la mélodie, vous avez donc tous vos sons que vous avez cherchés.
Oui.
Et maintenant comment ça se mélange tout ça?
Oh là, alors là on s'attaque à un autre problème beaucoup plus compliqué. Je ne vais pas faire un cours d'informatique d'abord parce que je ne suis pas compétent à ces choses-là, je ne les fais jamais tout seul. Il y a toujours des musiciens avec moi aussi pour programmer. Par exemple, quand on programme les éléments rythmiques que je choisis, c'est le batteur qui programme avec moi. S'il y a des éléments de clavier ou de choses comme ça, c'est le claviériste qui programme avec moi. C'est-à-dire que les musiciens interviennent pleinement, ce n'est pas du tout une confiscation du travail du musicien.
Donc alors une fois que vous avez choisis le son, qu'est-ce qui se passe?
Alors, eh bien, c'est simple, j'ai pris les sons donc, sur plusieurs disquettes différentes, je les ai réunis sur ma disquette de travail, et alors maintenant, j'ai donc pour la chanson dont j'ai joué un petit bout tout à l'heure, j'ai donc toute mon instrumentation qui est prête. Ça veut dire que j'ai tous les instruments que je vais utiliser, pas tous les instruments de la chanson, mais tous les instruments de base, puisque j'ai que 8 possibilités avec l'ordinateur, tous les instruments de base sont là. Alors évidemment, ça me fait une instrumentation pour toute la chanson. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand tout est sélectionné, je charge dans l'ordinateur cette instrumentation. Alors là, il faut un certain temps pour que tout se mette en boutique.
C'est-à-dire que là, vous chargez tous les sons.
Tous les sons vont être chargés dans une page qui s'appelle la page R et qui va être la page d'écriture. C'est-à-dire que j'ai tous les éléments de son et maintenant il va falloir que j'écrive, que je leur fasse jouer ce que je veux leur faire jouer. Et une fois que tout est programmé, c'est vraiment un raccourci, hein, mais enfin, ouais. Heureusement, parce que sinon, je vous dis, ça prend des heures. Je retourne à ma page R et une fois que toutes ces instrumentations ont été organisées, nous y voilà, j'ai plus qu'à appuyer sur play, comme ça. Et ça joue la musique. C'est facile, non? Voilà. Et là, en fait, on retrouve tout le début du disque qu'on va entendre après quand je vais le chanter tout à l'heure. Et on va défiler toute la partition. Donc ça veut dire que tout le travail d'arrangement, je peux le faire chez moi, je peux tout préparer. Ensuite, je prends mon ordinateur. Et c'est pareil pour le spectacle d'ailleurs. Je peux aller sur scène et je mets en route l'ordinateur et ça marche. Mais évidemment, les musiciens vont jouer avec moi parce que le principe, c'est pas de faire de la musique robotique. Mais c'est fantastique parce qu'on peut apporter au public quelque chose de, finalement, je trouve, de plus sain et de plus vrai, puisqu'on a vraiment les moyens maintenant de reproduire sur scène ce qu'on fait dans les disques.
C'est-à-dire que sur scène, l'ordinateur ne vous apportera que, par exemple, un supplément de train. Que quelque chose qu'un musicien jouera pas.
Voilà, c'est-à-dire pour cette chanson, par exemple, sur scène, on entendra ça. Et c'est l'ordinateur qui va le jouer. Et par-dessus, il y a des claviers que moi je vais jouer, il y a le batteur qui ajoute d'autres choses ou qui fait des chœurs, un guitariste qui joue des... Bon, c'est ça le principe. C'est un instrument de plus. Beaucoup de gens croient que c'est la technique qui remplace tout. C'est pas du tout ça, en tout cas pas de la manière dont on l'utilise nous. C'est un instrument supplémentaire qui est fantastique et qui a moins de limites que les autres. Je trouve que c'est plutôt ça.
Et nous voici rendus au terme de cette double visite à Balavoine. J'espère que, comme moi, vous aurez découvert de nouveaux sons, des nouvelles pistes d'exploration, philo ou technique. Ayant bien conscience de n'avoir pas fait le tour, loin de là, nous reviendrons plus tard sur d'autres sujets abordés par le grand Daniel. Cette visite, comme toutes les autres émissions d'Alpa, est loisible en podcast et rediffusion à l'antenne. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans le tube, que je trouve magnifique, que l'on entend en cuisine et en studio, plutôt dans cette émission. Issu de son dernier album, hélas le dernier, il met en défaut son auteur, les paroles. Sans rime, il me semble, ces paroles aussi ont là un niveau rarement atteint dans le rock à la française, comme il disait, et c'est pour ça que c'est un tube qui reste encore. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa, et évitez l'hélico, ça pollue.
Poète ou provocateur?
Moi, ni l'un ni l'autre, je suis chanteur de musique pop en état de marche pour le moment. Et c'est tout, les autres pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, je dis toujours que je suis hypermétrope. Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que je ne vois pas bien de près et que je suis trop près de moi-même pour me voir et pour en parler. Donc moi, je suis ce que je suis et les autres en font ce qu'ils veulent.
Un désert et je cours.
Changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire.